Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui crée un trait d'union entre les générations et nous accompagne dans le temps qui passe. En cette première diffusion de l'émission 63, nous sommes le 5 octobre à Canalem et le 7 octobre pour nos amis de CKVL et dans votre temps personnel à vous si vous nous écoutez sur Internet ou sur une plateforme de webdiffusion. C'est peut-être l'été, c'est peut-être l'hiver. C'est bien étrange, hein, cette relation au temps différé qui s'est créée depuis quelques décennies. Car autrefois, nous étions tous connectés en même temps. Nous avions des rendez-vous audiovisuels collectifs. Maintenant, chacun écoute ses émissions au moment qui lui convient, sur la plateforme qui lui convient. Il ne reste que peu de grandes messes, sauf peut-être, tout le monde en parle, le hockey, le Super Bowl, les élections et au printemps dernier, la conférence de presse du premier ministre Legault. Je me questionne souvent sur cette fragmentation de l'écoute, de ce que ça fait de nous. Et en fait, je me rends compte qu'on observe une tendance au retour à vouloir écouter des émissions en même temps, mais maintenant, on appelle ça le « co-watching ». Oui, toutes sortes d'applications nous permettent maintenant d'écouter, par exemple, une émission sur Netflix, mais sachant qu'on l'écoute en même temps et à des moments différents, avec la possibilité en même temps de tweeter, de chatter, bref, de donner nos commentaires sur l'émission que l'on écoute ensemble, un peu comme on le ferait si nous étions tous réunis devant la grosse télévision. Je me rappelle, entre autres, qu'étant enfant, nous étions plusieurs de ma génération à s'agglutiner devant les petits bonhommes du samedi matin. Et moi, je l'écoutais jusqu'aux sportifs héros du samedi. Je me rappelle, entre autres, de Candy, de La femme bionique, de Goldorak. Et cette semaine, en lisant le livre de notre première invitée, j'ai découvert que, selon l'autrice Annabelle Boyer, ces personnages de dessin animés agissent comme des modèles inconscients. Pour les plus âgés que moi, qu'avez-vous modélisé des personnages Larry Boulding et de Sol et Goblet? Bien entendu, nos principaux modèles sont nos parents, grands-parents, oncles et tantes, enseignants, coachs et sportifs. Nous allons explorer ces figures du passé, les croyances que l'on s'est bâties et comment cela nous soutient ou nous limite avec Annabelle Boyer. On explorera ensuite comment la notion de parcours et d'histoire traverse la FADOC, qui a célébré ses 50 ans, FADOC qui s'appelait autrefois la Fédération de l'Âge d'or. Elle réunit aujourd'hui plus de 500 000 membres réunis dans 704 clubs. Et ce qu'on connaît moins, c'est l'histoire derrière la FADOC, ses fondateurs, ce qui les animait et les obstacles qu'ils ont rencontrés. Alors, pour lancer cette 63e émission d'Au fil du temps, une très belle chanson de Pauline Julien, « Le temps qui passe ».
Le temps passe et il y met le temps. Les oiseaux s'envolent sur les temps. Le ciel bas, rayé de pluie et d'ombre, pèse sur les champs sombres où rôde aussi le vent. Je suis seul depuis déjà longtemps. Je suis seul, je suis triste et j'attends. Vers l'oubli glissent des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps. Pourtant j'étais jeune et je valsais au bal de la princesse. Les hommes, les femmes et les rires frais tournaient autour de mon cœur. Mais mon cœur est mort en plein printemps. Il est là, tout au fond de l'étang. Dans le feu glissent des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps.
C'était « Le temps passe » de Pauline Julien. Annabelle Boyer est autrice de plusieurs livres, dont le tout prochain, tout nouveau, qui s'en vient, « Libérez-vous de votre passé ». Elle est également coach certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées et analyste du langage corporel. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Je disais en introduction à l'émission que vous parlez dans votre livre de certains personnages de dessins animés qui ont peuplé mon enfance. Et je trouvais ça fascinant de voir justement comment la femme bionique Candy Goldorak ou Calimero avaient pu être des sources de modèles de comportement.
Oui, c'est des émissions qu'on a écoutées beaucoup. Et une des façons de programmer notre inconscient, c'est justement par la répétition. Donc, quand on a un modèle répétitif qui est sain, ça donne évidemment une programmation saine. Mais si on a un modèle répétitif qui est pleurnichard ou qui est intimidé, ben évidemment, là, le modèle qui se crée dans notre tête, lui, il est moins sain, là.
Évidemment, c'est un petit clin d'œil, mais vous notez avec beaucoup de pertinence dans votre livre là, comment nos parents sont nos premiers modèles. Oui. J'ai été surprise de voir là, une grande section qui décrit, qui nous invite à poser des questions sur comment nos parents réagissaient face à plusieurs situations.
Oui, parce que en fait, souvent on a appris qu'on est éduqué par nos parents, puis les parents pensent qu'ils vont nous transmettre verbalement les choses importantes de la vie. Mais en fait, les enfants apprennent par l'observation de notre comportement. Parce qu'évidemment, si on dit à notre enfant d'arrêter de crier et qu'on lui dit ça en criant,
il y a une incohérence.
Exactement. Et le jeune enfant de 4 ans ou de 3-4 ans ne peut pas se dire « Bon, là, ma mère est fatiguée, elle a eu une mauvaise journée, alors elle utilise une façon de communiquer qui est inadéquate. » L'enfant ne peut pas faire cette distinction-là. Alors, inévitablement, mais il comprend que l'adulte responsable utilise les cris pour parvenir à ses fins et c'est donc ce qu'il va intégrer.
Plutôt que le texte, la théorie que l'adulte essaie de transmettre.
Oui, parce que en fait, ce qui est intégré d'abord et avant tout, c'est ce qui est perçu par notre système réticulo-activateur qui est dans le cerveau reptilien, qui est la plus vieille partie de notre cerveau. Et évidemment, ce qui est perçu d'abord et avant tout, c'est ce qui est lié à notre émotion. Notre émotion, elle va être liée évidemment à l'humeur, à l'état psychologique du parent, bien plus qu'à ses mots. Donc, si le parent crie ou si le parent nous regarde avec des gros yeux et qu'on a peur, bien évidemment, c'est l'émotion qui va teinter notre souvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a une dispute avec quelqu'un et qu'on essaie de raconter après ce qui s'est dit, on a de la difficulté à se souvenir des mots. Mm-hmm. On se souvient de notre état, mais on ne se souvient pas de la conversation. Parce que ce qui nous a marqué, c'est l'émotion de l'autre personne.
Bien, c'est une belle liste, justement, que vous faites. Ça nous permet vraiment de faire un voyage dans notre passé, dans notre enfance, pour voir vraiment qu'est-ce qu'on a enregistré sur un paquet de sujets, que ce soit la manière dont nos parents vivaient une frustration, vivaient un deuil, quand ils étaient contrariés, comment ils réagissaient. Donc, ça fait faire de belles prises de conscience. Et vous avez toute une section aussi sur un acronyme qui s'appelle TRAHI et qui parle des blessures de l'être.
Mais en fait, ça a été développé au départ par un Américain, mais ça a été popularisé beaucoup par Lise Bourbeau. Et comme ça revient souvent dans les sujets de conversation, j'ai pris le temps de le décortiquer. Parce qu'évidemment, c'est difficile à prouver sur le plan scientifique quels sont les différents types de blessures. Hein, au même titre que c'est difficile de prouver sur le plan scientifique tous les blocages que l'on peut avoir. Par contre, les psychologues constatent qu'il y a des constantes. Il y a des choses qui reviennent souvent. Évidemment, c'est davantage à l'individu à essayer de s'auto-analyser, de s'auto-observer, mais en posant des questions à son entourage, aux gens qui sont autour de lui, pour être en mesure d'identifier quelles sont ses blessures. Puis évidemment, les 5 blessures que Lise Bourbeau a popularisées, ce sont évidemment les blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice, parce que ce sont les blessures qu'elle a observées beaucoup. Puis comme je vous disais, ça a été d'abord développé par un Américain. Mais ça nous permet de comprendre nos réactions. Parce qu'en arrière d'une blessure, bien évidemment, il y a un mécanisme de protection qui va se mettre en place qu'on appelle un masque. Donc, si moi j'ai une blessure de rejet, bien il y a de fortes chances que j'utilise pour me protéger la fuite. Donc, je vais fuir les conflits, je vais fuir les gens qui sont agressifs. J'oserais pas m'affirmer parce que je vais avoir peur d'être rejetée, mais parce que je porte cette blessure-là, j'ai des chances, moi, de rejeter les autres et de trouver que c'est justifié de rejeter les autres avant d'être rejetée. Donc, on porte des blessures, différents types de blessures. J'ai pris ce modèle-là, mais on aurait pu en prendre d'autres aussi. Mais on porte des blessures sans s'en rendre compte, à notre insu, et on les fait vivre aux autres aussi, et on interprète les situations du quotidien en fonction de nos blessures. Et c'est ça qui est intéressant parce que, évidemment, vous avez probablement lu, mais dans mon livre, je raconte une anecdote où je parle d'un Amérindien qui a fait des combats de MMA, de Mixed Martial Arts. Mm-hmm. Et il est arrivé une situation où il a dû affronter quelqu'un qui était beaucoup plus fort que lui parce que son promoteur a menti en faisant croire qu'il avait plus d'expérience. Et le promoteur du combattant adverse a menti en disant que lui, son combattant, avait moins d'expérience, alors que c'était pas vrai, il était beaucoup plus expérimenté. Mm-hmm. Et ça a donné, évidemment, un combat totalement inégal.
Oui.
Et dans la salle, j'avais deux personnes qui m'accompagnaient pour encadrer les participants. Mon conjoint qui était là, qui lui porte la blessure de trahison. Et pour lui, ce qui s'était passé, c'était évidemment que le promoteur avait trahi son poulain. Ma collègue Maryse, pour elle, elle porte la blessure d'injustice. Donc, elle a interprété la situation comme une situation d'injustice. Moi, sur le coup, c'est la blessure d'humiliation qui s'est activée. Mmh. Parce que je me suis dit, mon Dieu, que le gars, il a dû avoir honte de se faire tabasser comme ça devant ses pairs et de devoir revenir chez lui alors que vraiment, ça a été un combat épouvantable. Et donc, la même situation, on l'a tous les trois interprétée d'une façon différente parce qu'on ne porte pas les mêmes blessures.
À travers la lunette de chacun, à travers son expérience personnelle, on ne perçoit pas les mêmes choses. Et effectivement, c'est des modèles là, qui ont été pas mal explorés en psychologie. On doit effectivement à Madame Bourbeau cette vulgarisation-là qui a été faite, mais c'est assis sur quand même là, de la science intéressante. Oui. Comment les neurosciences, qui sont de plus en plus populaires, en fait, plus popularisées, je dirais, là, traitent ce sujet-là?
Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'évidemment, les neurosciences, ça fait quand même longtemps là, qu'il y a du travail qui est fait là-dessus, mais c'était moins vulgarisé. Donc, c'était moins connu du grand public. Mais une des choses que les neurosciences ont amené qui est vraiment très intéressante, c'est que pendant très longtemps, on a fait des recherches sur l'ADN en disant, ben si vous portez le gène, vous avez plus de chances de développer la maladie. Puis si vous n'avez pas le gène, mais tant mieux, vous êtes chanceux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les gènes que l'on porte, ce n'est qu'un plan.
Mm-hmm.
C'est un plan qui va faire que la cellule va se dupliquer d'une certaine façon, que le corps va se développer d'une certaine façon. Mais dans l'ADN, dans les hélices d'ADN, il y a des branches au milieu, les espèces de marches d'escalier. Et ça, ce sont des protéines. Et les protéines, c'est les ouvriers qui mettent en œuvre les plans.
Mm-hmm.
C'est les protéines, en fait, qui vont déterminer quelle section de l'ADN, quelle partie des gènes vont s'activer et lesquelles ne s'activeront pas. Puis les protéines réagissent à notre émotion réelle. Donc, si moi, je suis dans une phase où dans ma vie, ça ne va pas bien,
mm-hmm.
je suis en colère contre beaucoup de gens, bien, je viens à ce moment-là demander aux protéines d'activer certaines parties de mes gènes et de ne pas en activer d'autres. Je viens modifier aussi mon système immunitaire en fonction de mon état. Donc, les émotions récurrentes viennent jouer sur quelle partie de mes gènes je vais activer puis lesquelles je n'activerai pas. Et ça, j'ai du pouvoir là-dessus.
Mais vous parlez, entre autres, de l'importance du sport et que souvent, on en parle d'un point de vue santé, mais que ça a effectivement un impact au niveau de la plasticité du cerveau pour refaire ces connexions-là et les reprogrammer.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte, bien évidemment, il y a des choses qu'on connaissait déjà. On sait déjà que quand on pratique du sport, ça va permettre au corps de se débarrasser de ce qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone de stress, puis de se mettre à sécréter de l'endorphine, qui est une hormone de bien-être qu'on sécrète après n'importe quelle activité physique. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites où on a demandé à des personnes âgées de développer leur masse musculaire, alors qu'à un autre groupe témoin, eux autres, ils ne faisaient pas d'exercice. Et on s'est rendu compte que quand les gens produisent des muscles, parce que pour produire des muscles, évidemment, on va soulever des poids, on va les soulever un petit peu plus que ce qu'on était capable de faire. Ça va déchirer la fibre musculaire. Et là, quand on va dormir, surtout, là, à ce moment-là, le corps va travailler à réparer la fibre musculaire. Et pour être sûr que ça soit plus solide, on va en mettre un petit peu plus. C'est ce qui fait que le muscle devient de plus en plus important, de plus en plus consolidé. Et donc, c'est comme ça qu'on développe la masse musculaire. Et quand le corps se décide à fabriquer de la masse musculaire parce qu'on a des micro-déchirures, parce qu'on a fait un exercice physique, en même temps, il va, par la même occasion, fabriquer des connexions neuronales. Donc, en même temps qu'on fabrique du muscle, le corps, par la même occasion, parallèlement, va fabriquer des connexions neuronales. Donc, on développe notre cerveau en travaillant nos muscles. Et ça, c'est super intéressant parce que là, on se rend compte que pour des gens qui ont commencé à avoir des pertes de mémoire, qui ont de la misère à avoir qui ont une perte au niveau des fonctions cognitives, l'activité physique et la prise de masse musculaire vient leur permettre de développer le cerveau. Et ça, c'est super intéressant.
Mais vous parlez dans le livre aussi, justement, on parlait des hormones, de la soupe chimique.
Oui.
J'aime bien l'expression. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre soupe pour qu'elle produise une belle réaction?
En fait, il y a deux choses. On s'est rendu compte, entre autres, qu'il y a 4 neurotransmetteurs extrêmement importants. Dans notre cerveau, on a 70 neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, un peu, c'est à peu près la même chose que les hormones, sauf que c'est dans le cerveau et c'est ce qui permet de transmettre l'information d'un chemin neuronal à un autre. Parce qu'évidemment, les neurones, elles ne se touchent pas. Mmh. Elles s'envoient des jets de neurotransmetteurs et l'autre hormone va attraper la vaporisation de ces neurotransmetteurs-là, et c'est comme ça que se transmet l'information. Sauf que, évidemment, il y a des fois où on a des neurotransmetteurs qui sont très utiles et qu'on ne produit pas suffisamment. Si, par exemple, on a de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est ce qui nous permet de développer notre capacité de mémoire, notre capacité d'apprentissage, entre autres. Fait qu'évidemment, si on manque d'acétylcholine, on va avoir des problèmes d'apprentissage et des problèmes de mémoire. Mais il y a un neurotransmetteur extrêmement intéressant qui s'appelle le GABA. Mm-hmm. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui permet de s'apaiser. Dans un véhicule, ça serait le liquide de refroidissement d'un moteur.
Ah, j'aime bien l'analogie.
Fait que le GABA, si on en manque, bien, on a une tendance à faire de l'anxiété, à avoir de la misère à gérer nos émotions, on file pas bien, on a de la difficulté à fonctionner. Et très souvent, on manque de GABA, puis on ne sait pas comment en produire, et on ne peut pas manger du GABA. On ne peut pas dire, je vais prendre un complément alimentaire, ça va être correct. Par contre, quand on fait de l'activité physique, on se met à produire du GABA. Quand on va en nature, on se met à produire du GABA. Quand on fait de la méditation, on produit du GABA. Mm-hmm. Quand on fait du yoga, du tai chi, on produit du GABA. Et donc, on a des moyens, des outils qui nous permettent de stabiliser cette soupe chimique-là dans notre tête, justement, pour être en mesure d'avoir un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux. Parce qu'évidemment, si j'ai plein de cortisol dans mon cerveau puis dans mon corps, ben, c'est comme si j'essayais de rentrer chez nous puis que j'avais des sacs à poubelle un peu partout. Ben, ça se peut que j'aie de la misère à me rendre jusqu'au fond d'une pièce.
Je pense que votre livre « Libérez-vous du passé », ça serait comme justement permission de sortir les poubelles. On va aller en musique, Annabelle. Justement, on parle de libérer. On va écouter une chanson qui s'appelle « Femme libérée » et on parle ensuite des outils de guérison.
Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non.
C'était Femme libérée de Cookie Dingler qui a été repris par plusieurs artistes. On est avec Annabelle Boyer, autrice de plusieurs livres dont Libérez-vous de votre passé. Et Annabelle, comment être une femme libérée? Comment on peut faire ça de façon plus facile?
En fait, il existe plusieurs outils. Évidemment, il y a des outils plus élaborés puis il y a des outils un peu plus simples. La première chose, évidemment, ça serait de faire un bilan de vie. Comment ça va dans votre vie?
Oui, parce que j'aime votre phrase qui dit « Il n'y a pas d'évolution sans évaluation ».
Exactement. Parce que souvent, j'ai des clients qui viennent me voir pour des faux prétextes.
Ah.
Je voudrais, je suis pas bien dans mon travail, je voudrais changer d'emploi. Puis quand on creuse un peu, bien finalement, le couple est en train de prendre le bord, puis la santé est épouvantable. Fait qu'évidemment, quand on prend le temps de faire un bilan, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Donc, sur une échelle de 1 à 10, comment va votre santé? Sur une échelle de 1 à 10, comment vont vos finances? Sur une échelle de 1 à 10, comment vont vos amours, votre famille, vos relations amicales, votre spiritualité, votre développement personnel? Parce que ça, c'est souvent un volet qui est totalement occulté, mais qui fait partie des domaines de vie.
Est-ce donc, que c'est ça que vous appelez la roue de la vie?
Oui, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Puis la deuxième étape, bien évidemment, c'est d'identifier là-dedans quel est le domaine que si vous faisiez un changement, ça aurait un impact majeur sur l'ensemble de votre vie. Parce que des fois, je constate que chez des clients, ben personnellement, j'aurais travaillé un certain élément. Mais le client me dit, ben en fait, moi, là, je pense que si je travaillais ce domaine-là, je pense que ça changerait tout. Donc, c'est au client à identifier ce que lui, il veut. Ensuite, bien évidemment, il va falloir reprogrammer notre inconscient. Parce que c'est programmé dans notre enfance, c'est allé se loger très loin dans l'inconscient. Puis souvent, on prend des résolutions le premier de l'an, puis on les tient pas. Parce que les résolutions, on les prend avec la partie raisonnable de notre cerveau, avec notre cortical. Mais c'est pas lui qui mène. C'est pas le cortical qui décide qu'est-ce qu'on va avoir comme motivation puis qu'est-ce qu'on n'aura pas comme motivation. C'est pas là où va se jouer l'auto-sabotage. Mm. C'est dans notre inconscient. Et si on ne va pas travailler dans l'inconscient, bien, ça ne marchera pas. Parce que notre conscient, là, il est capable de gérer 3 à 5 % de nos pensées. Le reste, ça se passe dans l'inconscient.
Bien, il y a quelque chose que vous dites dans votre livre qui m'a beaucoup étonnée. Je dirais que je suis restée un petit peu dubitative. Parce qu'on dit toujours, quand on veut changer une habitude, ça prend 21 jours pour inclure une nouvelle habitude. Et là, vous dites qu'on a 21 jours pour faire face à des situations, les résoudre, faire la paix, sinon ça s'imprime dans l'inconscient.
Oui. En fait, il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Un, ça prend 21 jours pour changer une habitude, c'est pas vrai. Les neurosciences sont allées vérifier, justement, il n'y a aucune donnée scientifique sur cet élément-là. C'est un mythe, malheureusement, qui a été répété et répété et répété. C'est pas 21 jours. En moyenne, c'est 60 jours pour changer une habitude, 90 pour vraiment la consolider. Donc, c'est pour ça que quand les gens disent « Ah, ben, tu sais, j'essaie de manger moins de sucre, ça fait 21 jours puis c'est encore aussi difficile », ben, c'est normal. Parce que ça prend 60 jours pour changer l'habitude, 90 pour la consolider. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il faut le faire plus rapidement. Puis, quand on a, par exemple, un conflit avec quelqu'un et qu'on n'a pas pris le temps de bien l'adresser, de gérer notre émotion, de faire la paix avec soi, hein, je parle pas de faire la paix avec l'autre, là, je parle de faire la paix avec soi, après 21 jours, ça s'imprime dans l'inconscient. Et là, à ce moment-là, je vais devoir le travailler autrement. Je vais devoir aller travailler dans mon inconscient pour aller le défaire. Parce que mon émotion, je vais l'avoir ressentie pendant 21 jours. C'est pas vrai que si j'ai un conflit avec mon conjoint ou ma conjointe, que j'y repenserai pas. Ça va me torturer. Et donc, tous les jours, à chaque fois que je vais y repenser, je vais resécréter du cortisol, hormone de stress, resécréter de l'adrénaline. Et donc, journée après journée, tant et aussi longtemps que ce conflit-là ne sera pas résolu adéquatement, ça va se répéter dans mon émotion, ça va changer ma soupe chimique dans mon cerveau et dans mon corps. Et au bout de 21 jours, c'est imprimé dans l'inconscient.
Donc, je comprends qu'il faut changer les sortir les poubelles rapidement.
Oui, et de la bonne façon, parce que souvent, les gens pensent que ben, je vais m'affirmer, je vais dire ce que je pense, ils veulent savoir. Sauf que si je suis en colère, je ne suis pas en train de m'affirmer, je suis en train de vomir ma colère dans le visage de l'autre. C'est pas la même chose.
Annabelle, dites-nous à quel moment votre livre sera publié?
Il est chez l'éditeur, donc il devrait arriver d'ici probablement une semaine ou deux. Il est déjà en pré-vente sur mon site web et sur le site de mon éditeur, Bélivaux Éditeur.
Merci beaucoup, Annabelle Boyer, autrice, entre autres, de Libérez-vous de votre passé. Merci d'avoir été avec nous, Annabelle.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Après la pause, en deuxième partie, nous allons explorer l'histoire de la FADOC, autrefois appelée la Fédération de l'Âge d'or.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Si vous souhaitez bouger pour votre santé et augmenter la plasticité de votre cerveau, je vous invite à nous écouter avec vos écouteurs en prenant une belle grande marche. Comment vous faites ça? Vous allez sur Internet, vous nous écoutez sur canalem.vusezvoix.com. Vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de balado-diffusion Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Évidemment, je me dis tant qu'à avoir votre appareil dans la main, profitez-en pour nous visiter sur Facebook. Nous avons une page qui s'appelle Au fil du temps Canalem. Je suis désireuse d'avoir de vos nouvelles, d'avoir de vos histoires, des témoignages et des suggestions de sujets et d'invités que nous pourrions avoir et recevoir pour vous à Au fil du temps. Nous allons parler tout de suite après la pièce musicale avec Annie Belcourt, la directrice générale de la FADOC. Et évidemment, tout mouvement part souvent dans un objectif de solidarité. Donc, on écoute cette belle pièce qui s'appelle « Solidarité », qui est de la formation « La Momalie », qui est composée du chanteur M, de Toumani et Sidki Diabaté et Fatoumata Diawara.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la.
I know love, I know freedom, and I know the world. What is that up for? How come he don't know like me? What the hell they fighting for? Not a man with the blaming his brother apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love below.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
Nafs al-shams tashru alayhi wa alayk. Nafs al-najmi ba'ayouni btudwi ba'aynayk.
Solidarity. verdade, com joia e amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
ही परम धर्म है इससे बड़ा न कोई.
Solidarité, une chanson entraînante qui nous donne envie de fonder un mouvement fait par la formation L'âme au Mali, donc L'âme au Mali. Nous recevons Annie Bellecourt, directrice générale de la FADOC Région Centre du Québec, pour nous expliquer justement comment s'est forgée la FADOC. Bonjour Annie.
Bonjour. Ça va bien?
Ça va très bien, merci. Avec une chanson aussi entraînante.
Oui, puis tu as souligné qu'aujourd'hui, en plus, c'est le 1er octobre et la Journée internationale des aînés.
Absolument.
Donc, saluer toutes les aînés qui vous écoutent.
Merci. Effectivement, c'est un très beau clin d'œil que vous faites. Et d'entrée de jeu, justement, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'on déclare pour la FADOC qu'on est un aîné à partir de 50 ans?
Bien, je vous dirais, en fait, c'est que nous, on travaille à court, moyen et long terme pour la qualité de vie des aînés. Et on considère là, qu'à partir de 50 ans et plus, il y a beaucoup d'occasions qui font en sorte que les aînés peuvent nous appuyer parce qu'ils s'en vont eux aussi tranquillement là, vers la retraite et vers une qualité de vie où ils vont pouvoir profiter d'un peu de leurs avoirs.
Donc, à partir de 50 ans, et c'est justement votre anniversaire, la FADOC a eu 50 ans dernièrement.
Oui, effectivement. Bien, la FADOC Centre du Québec, en fait, le réseau FADOC a fêté son 50e l'an dernier. Nous, à la FADOC Centre du Québec, la date était le 23 août 2021, puisqu'on a été fondé en 1971. Donc, on est en activité de 50e tout au long de l'année.
Donc, parlez-nous là, de l'origine de la FADOC. Comment c'est né?
Bien, en fait, la FADOC est née d'une dame qui s'appelait Marie-Ange Bouchard, qui, en 1962, a décidé là, de faire une petite réunion avec des hommes, parce qu'en fait, on sait qu'à l'époque, les femmes élevaient les enfants, puis une fois les enfants élevés, il n'y avait pas eu vraiment de vie. Donc, c'était pour briser un peu l'isolement de ces femmes-là. Jamais Mme Bouchard, elle aurait pensé là, que cette petite rencontre-là ferait des petits comme ça et que ça deviendrait aussi gros, parce que maintenant, rendu en 2021, en tout et partout, il y a plus de 550 000 membres au Québec, dont 24 500 là, chez nous au Centre du Québec. Et nous, là, au départ, quand on s'est associé en 1971, on n'avait que 15 clubs et 1000 membres. Donc, le mouvement a vraiment prospéré beaucoup.
Mais dites-moi, Mme Bellecourt, vous avez dit Mme Bouchard a fait une réunion avec des hommes et non, et avec des hommes, mais pour parler des femmes.
Bien, pour parler des femmes, en fait, c'était pour créer des moments de rassemblement. Et comme on se souvient, à l'époque, hein, les femmes ne pouvaient pas aller dans les tavernes, les femmes ne pouvaient pas faire grand-chose, tout passait par les hommes. Alors, cette dame-là, qui était peut-être un petit peu plus avant-gardiste, avait commencé par une réunion là, avec des hommes, mais rapidement, là, les femmes sont entrées dans le mouvement parce que dès 1974, là, il y avait déjà les premiers jeux régionaux qui prenaient forme pour les hommes et les femmes ensemble.
Puis est-ce que le but de réunir des hommes au départ, c'était plus parce que c'était les gens qui étaient disponibles à une activité, je dirais, de nature sociale, les femmes étant justement occupées à faire des petits, ou c'était dans l'objectif justement de passer par les hommes pour rejoindre les femmes pour briser leur isolement?
J'opterais pour votre première réponse, là, qui était que les hommes étaient peut-être sortaient plus en fait, là. Mais en fait, la vraie réponse, je l'ai pas. Si je suis honnête, là, je ne sais pas ce qui a fait vraiment ça, mais j'ose croire que c'est ça. Les femmes sortaient tellement peu qu'on approchait les hommes d'abord, je pense.
Mais ça finit par trouver son public.
Oui, effectivement.
Et comment bon, d'abord le nom, hein? Autrefois, c'était la Fédération de l'âge d'or, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Et en fait, on a gardé, parce que FADOC, en fait, c'est Fédération de l'âge d'or du Québec, les lettres qu'il représente. Mais aujourd'hui, on tente de plus en plus, justement, pour attirer les 50 ans et plus, de ne plus parler de l'âge d'or. Et on parle là, de la FADOC sans nécessairement là, donner la définition. Le logo est maintenant très connu et de plus en plus de gens ne savent pas nécessairement ce que veulent dire les lettres et ne s'attardent pas à ça non plus, là, parce qu'on est rendu vraiment avec tellement de loisirs, de rabais pour toutes les couches d'âge, tous les gens très actifs, du plus actif au moins actif. On touche vraiment là, à une panoplie. On est même rendu là, dû au COVID avec toute une programmation virtuelle. Donc, on touche vraiment à tout, que ce soit sportif, culturel.
Bien, en fait, moi, au départ, quand j'ai reçu ma carte en cadeau d'anniversaire à 50 ans, je sais, j'avais de la difficulté à me situer. Mais là, moi, quand je regarde ça, FADO, je me dis, ben tiens, je suis l'ado des aînés.
C'est en plein ça. Donc, vous venez de retomber dans les plus jeunes.
C'est ça. Et comment le mouvement s'est distingué à l'époque là, des autres organismes qui étaient sur place, comme la Cirque des fermières, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, tous les autres groupes communautaires, organismes syndicaux? C'est quoi le positionnement?
Bien, je vous dirais que nous, on a axé beaucoup, je pense, sur briser l'isolement et le loisir, sur le regroupement social à la base, alors que les fermières, je ne dis pas que c'était pas social, mais je pense que c'était plus axé vraiment aux femmes, alors que nous, on était, je pense, un des premiers mouvements là, qui pouvait amalgamer autant hommes et femmes à un même endroit pour s'amuser.
Puis bon, il y a eu les fonctions justement de social, briser l'isolement, les activités, mais je crois qu'au fil des années, vous êtes allé aussi de plus en plus vers des activités de lobby, de représentation aussi des intérêts des aînés.
Oui, effectivement. Même en 2013, là, on a eu une première participation à un groupe de travail sur le vieillissement aux Nations Unies. Mm-hmm. Et bien entendu, là, avec nos 500 000 membres, on est interpellés de plus en plus auprès des instances gouvernementales pour discuter là, des différents sujets qui peuvent toucher les aînés. Et quand on interpelle les gouvernements, bien entendu, avec 500 000 membres, ils ont une plus grande tendance
à
écouter, c'est ça.
Est-ce qu'il y a certains dossiers, entre autres, où vous pouvez, affirmer là, que vous avez eu un rôle d'acteur important de changement?
Bien, je vous dirais un des derniers, entre autres, là, en début COVID, là, quand les gens ont commencé à vouloir charger 7 $ par cabaret dans les résidences, rapidement, là, on a interpellé et le gouvernement a tout de suite là, réagi pour enlever ces frais-là qui étaient inutiles. Là. Ça, c'est un exemple qui a été comme très rapide. Là. On a interpellé aussi pour avoir de l'argent pour nos aînés au niveau COVID. On a réussi à avoir un 300 $ plus un 200 pour les gens qui étaient sur le surplus de revenus garanti. On a eu ce petit gain-là, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. En fait, nous, on aurait voulu un montant qui revenait de mois en mois, mais on a quand même eu un petit quelque chose, mais on continue à travailler là, pour tenter de rehausser nos aînés qui sont à la retraite.
Et si on disait, à travers ces 5 décennies-là, est-ce qu'il y a vraiment des grandes étapes de développement comment vous vous êtes transformé? Bon, vous avez parlé, entre autres, d'une adaptation au numérique.
Bien, en fait, les nouvelles technologies, nous, on a commencé à brancher les aînés à offrir des cours à partir des années 2000. Donc, mm-hmm. en 2000, là, on a vraiment commencé, nous, à monter des cours adaptés aux aînés qui sont encore là aujourd'hui en petits groupes pour faciliter l'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment là, une de nos innovations que je pense qu'on était quand même dans les premiers à mettre sur pied là, des cours pour les aînés.
Puis les décennies précédentes, là, ça, comment la FADOC s'est transformée?
Bien, en fait, comment elle s'est transformée, je pense que c'est...
Avez-vous vécu des obstacles?
Bien, je vous dirais pas tant, parce qu'au départ, c'est un organisme qui était là pour briser l'isolement, qui était là pour rendre la vie agréable aux gens. Donc, c'est créé là, des clubs tranquillement, pas vite, un peu partout, qui fait que là, on a 704 clubs. C'était beaucoup axé sur le bénévolat, c'était beaucoup axé sur les gens qui avaient des idées pour faire bouger. Donc, petit train va loin, comme on dit, les gens se sont greffés de part et d'autre à nous pour tenter là, de divertir les aînés. Vous savez, la FADOC, c'est une infinie d'idées reliés ensemble qui font en sorte qu'on a autant d'aînés là, qui participent à nos activités. Il y a le volet politique qui était moins présent au départ mm-hmm. et qui est devenu là, maintenant très, très présent dans notre nouvelle clientèle, entre autres. Là, au départ, peu de gens prenaient la carte pour nous appuyer dans nos débats politiques, alors que là, on a une clientèle qui prend la carte là, expressément pour nous appuyer dans tout ça. Ça fait que ça aussi, c'est un cheminement fort important. Là.
Vers quoi... Vers quoi on s'en va, Mme Bellecour, au niveau du futur de la FADOC?
Bien, je vous dirais que là, on est vraiment prêt à faire des transformations majeures sur tout ce qui touche l'informatique, en fait, le virtuel, la géolocalisation. Écoute, on s'en va vers des processus qui vont faire en sorte que les plus jeunes vont être encore plus attirés par nous et pour être prêts aussi, parce que présentement, ce n'est pas tous les aînés qui sont informatisés, mais dans 5 à 10 ans, on sait très bien que la majorité des gens vont ne fonctionner qu'avec les cellulaires, qu'avec les ordinateurs, et qu'on a une clientèle qui est peut-être plus indépendante qui s'en vient, donc il faut aller les chercher autrement, et on pense qu'avec les médias sociaux et tout le monde informatique aussi poussé qu'il soit, on doit faire ce tournant-là, là, en fait.
Donc, si on a des aînés à l'écoute, que ce soit des ados aînés ou des aînés plus qui ont seniors, comment, dites-nous, là, si on est intéressé aux activités ou même à vouloir s'engager socialement, comment on cogne à la porte d'un club local ou on va sur le site Internet?
Bien, je vous dirais, il y a différentes options. Il y a la page Facebook où on retrouve nos numéros de téléphone. Il y a mm-hmm. notre site Internet fadoc.ca où on peut se rendre pour avoir toute l'information. On peut nous appeler directement à la FADOC régionale. On est situé en fait à Victoriaville, mais on couvre tout le centre du Québec au complet. On peut effectivement aller frapper aussi à la porte de notre club local qui, s'ils n'ont pas la réponse, vont vous référer à nous au niveau mm-hmm. régional. Et si on est d'ailleurs du Québec, bien, on peut interpeller sa FADOC régionale ou on peut tout simplement aussi appeler directement au réseau FADOC à Montréal qui va se faire un plaisir de répondre et d'envoyer la personne là, à la bonne porte. Là. Et bien entendu, on peut s'inscrire à notre infolettre. Donc, si on s'inscrit à l'infolettre, là, tous les mois, on est toujours à jour sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on débat, toutes nos nouveautés, nos activités, nos nouveaux rabais. Alors, c'est les façons, en fait, de communiquer avec nous.
Bien, c'est parfait. On va inviter nos auditeurs au fil du temps à se renseigner. Merci beaucoup, Annie Bellecour, directrice générale de la FADOC Région Centre du Québec. Et je vous offre une chanson pour vos 50 ans, La cinquantaine de Serge Reggiani.
Merci.
Au revoir.
On arrive à la cinquantaine, moitié sage, moitié fou. Le cul assis entre deux chaises à tenter d'en joindre les bouts. Sur la route de la chimère, on se retrouve souvent un jour. pour faire le compte de ses guerres, des petites joies, des grands amours. Et c'est tout. On arrive à la cinquantaine, moitié figue, moitié raisin. Le cœur absous de toute haine, le cœur absous de tout chagrin. On a troqué sa destinée contre des hauts, contre des bas. Rêves vendus à la criée pour faire le vendredi gras. Et c'est tout. On arrive à la cinquantaine, moitié déçu, moitié content. Un quart de joie, un quart de peine, et l'autre moitié aux enfants. On se souvient de sa jeunesse comme d'un joyeux chapardage. Au seuil de la prime vieillesse, on pose un instant ses bagages. Et c'est tout. Et on repart vers la centaine, un demi-siècle dans les reins. Avec tout juste la moyenne à notre devoir de terrien. Comme elle est lointaine, elle arrive où l'on se couchera un jour. Il reste tant et tant à vivre qu'on pourra faire un long détour. Si tu veux, mon amour.
Alors, joyeux anniversaire à la cinquantaine de la FADOC, une très, très belle chanson de Serge Reggiani. Moi, je suis toujours fascinée par la naissance des mouvements comme ça. Comment une personne décide d'écouter son cœur, son appétit, son envie, de lancer quelque chose et elle ne sait pas que cela va prendre de l'ampleur. Et j'ai découvert sur Internet une vidéo vraiment amusante qui s'appelle « Leadership Lessons from a Dancing Guy ». C'est vraiment la genèse d'un mouvement où on est dans un parc et on voit un homme qui danse tout seul dans un coin et il danse vraiment de façon étrange. Et il est perçu un petit peu comme un hurluberlu, mais rapidement, il y a un deuxième homme qui va à côté de lui, qui se met à imiter ses mouvements et à danser pareil comme lui. Et là, tout à coup, il y a un troisième qui se joint. Et de fil en aiguille, il y a tellement de monde qui se joignent au nouveau groupe que les gens qui sont dans le groupe principal se sentent maintenant un peu ridicules de rester dans le groupe de base et finissent par rejoindre le dancing guy. Et c'est fascinant parce que la personne qui commente cette vidéo-là dit « Oui, ça prend un fondateur, mais ça prend aussi un deuxième ». Donc, tout mouvement qui devient un mouvement est dû à une deuxième personne qui a embarqué. Donc, si vous n'êtes pas l'âme d'un fondateur, mais que vous trouvez qu'un mouvement fait du sens, ben vous pouvez vous y joindre en autant que vous développiez de beaux projets. On peut être un fondateur, puis on peut être tout simplement quelqu'un qui suit, puis ça fait une belle chorégraphie à la fin. Je veux également vous parler d'une personne qui m'inspire. Elle s'appelle Madame Fisher. J'ai découvert Madame Fisher sur Urbania. Il y a une petite vidéo. Madame Fisher, elle a décidé de commencer à travailler à l'âge où les gens partent à la retraite. Elle a commencé à 65 ans. Son mari avait une mercerie, des accessoires en fait pour tailleurs qui s'appelle Fisher et Fils, etc. Et il est décédé à 70 ans et Madame Fisher s'est dit « Je ne peux pas laisser aller ce commerce-là alors que mon mari a mis tant d'efforts. » Donc, elle a décidé de se lancer, de reprendre l'entreprise fondée par son mari. Et elle y est depuis 27 ans. Madame Fisher a 91 ans. Elle travaille 5 jours par semaine. Et au début, elle dit qu'elle, pour apprendre le métier, elle était là sur place de 6 heures le matin à 22 heures le soir. Et c'est très drôle de l'entendre parce qu'elle dit « À l'époque, je pouvais me le permettre, j'étais toute jeune. » Et elle avait quoi, 65, 66 ans? Et elle dit que le magasin va fermer le jour où ses yeux à elle vont fermer. Et je trouve que c'est un bel exemple de personne qui se garde alerte, occupée. Parce que quand on regarde la vidéo, on voit que Mme Fisher, à 91 ans, ben elle est toute là, toute présente, toute vibrante. Alors, bravo Mme Fisher pour cette inspiration. J'ai également fait une belle découverte musicale. La semaine dernière, en fait, c'était il y a deux semaines, le gala des Prix Gémeaux. Et j'ai découvert un artiste qui s'appelle Étienne Copé. Et depuis, j'écoute un peu en boucle ses chansons et je vous offre celle-ci qui s'appelle « Demain, il fera beau ».
Demain, ça ira mieux. Alléluia.
Oh, je trouve ça tellement joli. Ça s'appelle « Demain, il fera beau » d'Étienne Copé. Et Étienne Copé, il est le grand prix de la 25e édition des Francouvertes 2021. Je vous invite également à écouter sa chanson « L'été indien de ta vie ». Son tout nouvel album, en fait, son premier album s'appelle « Et on pleurera ensemble ». Donc, de peine ou de joie, le mot que je retiens ici, c'est « ensemble ». Alors, était ensemble avec nous pour cette 63e émission d'Au fil du temps. Annabelle Boyer, qui sort son livre « Libérez-vous de votre passé » d'ici 2 semaines. On peut la retrouver sur son site Internet. Alors, c'est Annabelle dans un mot, -boyer.com. Et on a reçu également Annie Bellecour, directrice générale de la FADOC, c'est fadoc.ca. Merci à Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, Nathalie Beaulieu, fondatrice des salons TDAH et Apaisanteur, et Louise Arcan d'Espace Vie Emploi, que nous avons déjà reçu et qui nous affirme n'avoir jamais autant travaillé depuis la pandémie. Qu'est-ce qu'elle fait, la belle Louise? Elle s'occupe des transitions de vie. Alors, je vous souhaite une excellente semaine avec plein de demain, il fera beau. À bientôt!